L'incertitude persiste à propos du renouvellement de l'accord de libre-échange nord-américain. La guerre commerciale qui s'est amorcée avec l'imposition de tarifs de part et d'autre ajoute au climat de tension et d'inquiétude. C'est sur ce sujet que la discussion s'est amorcée avec Marcel Groslot, même si nous avons brièvement parlé des foins et du début de la saison de culture. Marcel Groslot, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Levac.
Monsieur Groslot, des dossiers chauds, même si c'est l'été, normalement, on pense un peu plus aux vacances, quoique c'est embêtant de dire ça à un agriculteur, parce que les vacances l'été, c'est plutôt aléatoire.
Ah, en effet, l'été, malgré que depuis le printemps, on a eu une belle température quand même, là, le début de mai était un peu humide, froid, mais le beau temps a permis de faire des semences dans des bonnes conditions. Et là, je voyage un peu à travers le Québec. Puis la première coupe de foin dans le sud, au centre du Québec, est terminée. Dans l'est, c'est en train de se faire, au lac Saint-Jean aussi. Alors, les travaux se sont bien déroulés depuis le début du printemps.
Donc, un été qui apparaît normal pour l'instant, il n'y a pas de grosses catastrophes dans l'air, mais il y a des dossiers chauds. Là.
Oui.
Le plus chaud, peut-être, on le voit dans le secteur agricole, comme on peut le voir aussi dans d'autres secteurs de l'économie canadienne et québécoise, c'est le dossier de l'accord de libre-échange nord-américain, la renégociation de cet accord. C'est toujours l'impasse, et ça, ça crée un malaise terrible dans le monde agricole.
Oui, parce que, bon, vous avez entendu M. Trump répétait à quelques reprises qu'il souhaitait la fin de la gestion de l'offre au Canada ou il remettait en question les tarifs que le Canada applique sur les importations de produits laitiers américains. En fait, il dit pas tout, là, parce que... Et bientôt, on va sortir un papier sur la question, là, mais les Américains appliquent des tarifs sur les produits laitiers canadiens ou sur les importations de produits laitiers chez eux beaucoup plus que ne le fait le Canada, là. Alors, ils ont des tarifs élevés, eux aussi. Alors, ils sont loin de pouvoir faire des leçons à qui que ce soit au niveau du protectionnisme. Ils sont beaucoup plus protectionnistes que plusieurs autres pays, dont le Canada. Mais pour revenir à l'ALENA, oui, c'est inquiétant parce que on vit une escalade des moyens de pression, pression auxquelles fait face le Canada. Là, on le voit par l'imposition des tarifs sur l'acier et l'aluminium, auxquels le Canada va répondre par une série de tarifs sur plusieurs produits américains qu'on importe. Le Mexique fait de même, l'Europe aussi, la Chine. M. Trump menace de revenir avec une série de tarifs sur d'autres produits, dont l'automobile. Où ça va s'arrêter, on ne le sait pas. Mais tout ça est malsain pour les échanges économiques, puis les investissements, parce que à terme, comment ça va se terminer, personne ne peut le prédire. Et devant l'incertitude ou devant l'imprévisibilité de cette administration-là, l'administration Trump, bien, c'est sûr que les investisseurs sont plutôt prudents et attendent de savoir ce qui va se passer, dont certains dans le milieu agricole, là. Donc, je rencontre des producteurs actuellement qui remettent en question certains investissements qu'ils prévoyaient faire à court terme parce qu'ils veulent attendre de voir comment ça va se régler, cette négociation-là.
Et la guerre commerciale, la guerre des tarifs entre les États-Unis et plusieurs pays, dont le Canada, bien sûr, est-ce que, de votre point de vue, ça ne risque pas d'inciter davantage le gouvernement canadien à utiliser le secteur agricole comme une monnaie d'échange pour sauver d'autres secteurs?
Il y a deux secteurs canadiens là, qui sont plus ciblés par les Américains, le secteur de l'automobile, les pièces automobiles et la fabrication ou l'assemblage automobile. Dans la négociation, c'est le chapitre sur les règles d'origine qui fera foi du résultat de cette négociation-là. Et au niveau agricole, bien, c'est l'accès au marché canadien pour les produits sous gestion de l'offre, dont la volaille et le lait. Alors, ce sont les deux secteurs qui sont les plus à risque dans cette négociation-là. Alors, tu as raison sur est-ce qu'on sera une monnaie d'échange? On l'a été en partie dans la négociation avec l'Europe et dans le PTP. Et moi, c'est ce que je répète à Mme Freeland et à tous ceux qui sont associés de près à cette négociation-là. Le secteur agricole canadien a déjà donné dans les deux négociations précédentes. Et cette fois-ci, il n'est pas question que le Canada fasse encore une concession qui coûte cher. C'est des concessions qui coûtent cher aux producteurs agricoles, surtout sous gestion de l'offre, mais aussi à l'industrie de la transformation sous gestion de l'offre. C'est des emplois qu'on perd chez nous et c'est récurrent. Là. C'est pas une année, c'est récurrent d'année en année. C'est ces pertes d'emplois-là et ces pertes de revenus-là. Donc, on met la pression. Puis moi, je dis aux producteurs agricoles, puis je dis aux maires de nos municipalités, aux préfets de nos municipalités, maintenez la pression sur les négociateurs et sur le gouvernement canadien, parce que c'est l'économie de nos régions qui risque d'être affectée s'il y a des concessions qui sont encore faites dans le cadre de cette négociation-là.
Et c'est d'autant plus inquiétant que même le premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, à un grand réseau de télévision américain, a dit très récemment que peut-être certaines ouvertures pourraient être faites sur l'accès au marché, donc sur la gestion de l'offre. Donc, ça amplifie encore l'inquiétude, là.
En tout cas, ça nous donne une idée des intentions du gouvernement, tout le moins des intentions qu'il avait lorsqu'il a donné cette entrevue-là. Si je remets l'entrevue dans son contexte, lorsqu'il a donné cette entrevue-là, l'accord de principe qui semblait être sur le point de se conclure avait achoppé. Donc, les déclarations du premier ministre à ce moment-là avaient peu de conséquences puisque l'accord était impossible à ce moment-là. Semble-t-il parce que le Mexique n'était pas d'accord sur certains points. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette ouverture-là que le premier ministre a mentionné? J'ai tenté de le savoir, je n'ai pas été capable. Lorsqu'on parle aux négociateurs directement, aux négociateurs, eux nous disent que la négociation sur les tables d'agriculture n'a pas bougé, n'a pas évolué. Il n'y a pas de rencontres qui ont eu lieu dans les dernières semaines, derniers mois non plus. Alors, c'est difficile pour nous de savoir exactement à quoi pensait le premier ministre du Canada lorsqu'il a donné cette entrevue-là. Mais c'est sûr que d'avoir dit cela, c'était pas très habile parce que je me mets dans la peau des négociateurs. Lorsque ton premier ministre mentionne qu'il a de la flexibilité, ça devient très difficile pour les négociateurs devant les négociateurs américains de dire on n'a aucune marge de manœuvre dans ce dossier-là, par exemple. Alors, j'espère que M. Trudeau a compris que ça avait été une déclaration malheureuse et qu'il va être capable, maintenant qu'on repart un peu les pendules à zéro, puisque l'accord de principe n'a pas été entériné, qu'on va être capable de revenir à la case départ et qu'il va affirmer haut et fort qu'il n'y a pas de flexibilité possible dans les productions sous gestion de l'offre.
Autre sujet interne, celui-là pourrait-on dire, interne au Québec, la question des taxes foncières agricoles. Il était question depuis les dernières rencontres du ministre Laurent Lessard avec les gens du PA, il était question, entre autres au Congrès, on a dit on va négocier, on va discuter, on va établir une table avec les municipalités de façon à trouver une solution à ça. Est-ce qu'il y a eu des négociations et est-ce qu'il y a une solution en vue?
En fait, la solution pour nous à l'UPA, elle est plutôt simple et elle fait plein de sens, là. Il y a deux enjeux là-dedans. Les coûts qui augmentent pour les producteurs agricoles, les coûts nets augmentent pour les producteurs agricoles et le contrôle des coûts de ce programme-là pour le gouvernement. Ce sont les deux enjeux. Et le troisième enjeu, bien, c'est les revenus pour les municipalités. Ce qu'on propose à l'UPA, qui, à notre avis, répond à l'ensemble de ces enjeux-là, c'est de limiter la valeur taxable des terres agricoles à 20 000 $ l'hectare. Actuellement, il n'y a seulement que 1 % des terres agricoles dont l'évaluation foncière dépasse le 20 000 $ en question. Donc, ça affecterait peu de municipalités au moment où on se parle, mais ça préserverait pour le futur, ça protégerait le gouvernement du Québec sur les augmentations futures à venir dans le programme de crédit de taxe foncière sont limitées à la valeur taxable. Et limité à 20 000 $ l'hectare, c'est déjà bien au-delà du rendement agronomique de ces terres-là. Donc, on leur accorde une valeur spéculative. On accepte que les terres aient une valeur spéculative selon le rôle d'évaluation. Donc, ce n'est pas un recul pour les municipalités. C'est même pour ceux dont les terres ne sont pas encore à 20 000 $ l'hectare. C'est loin d'être un recul. Il y a encore de la possibilité. Et l'autre élément, bien, c'est d'enlever le plafond sur le programme qui plafonne les dépenses du gouvernement dans ce programme-là. Parce que ce plafond-là fait en sorte qu'il y a seulement les producteurs qui sont à risque. Parce que le gouvernement plafonne ses dépenses, les municipalités sont garanties de leurs revenus, puis les producteurs payent la différence. De sorte que pour les producteurs, en 2007, le coût net des taxes était de 37 millions de dollars. En 2022, ça va être de 122 millions de dollars. Fait que nous, nos coûts vont avoir augmenté de 5 fois pendant que les coûts pour le gouvernement de ce programme-là n'auront pas doublé pendant la même période-là. Donc, c'est sûr que ce sont les producteurs qui absorbent l'ensemble des coûts, des augmentations de la valeur des terres agricoles actuellement. Les municipalités en profitent, le gouvernement se protège, les producteurs assument. Et là, actuellement, on arrive dans une situation où on remet en question la viabilité de certaines productions parce que le coût des taxes dépasse la capacité des producteurs d'assumer ces coûts-là.
Et est-ce qu'il y a des discussions qui se poursuivent?
Pour l'instant, non. Il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu un travail intéressant au niveau du MAPAC, d'échange d'informations, d'élaboration de certains scénarios. Le MAPAC nous dit qu'ils ont 8 scénarios. Le scénario que le ministère des Finances aurait retenu et auquel on n'était pas d'accord ressemblait beaucoup à la réforme Paradis. Donc, un seul taux de crédit, un seul taux pour le crédit de taxe à 78 % et on maintenait un plafond. Alors, c'est sûr que pour nous, ce n'était pas acceptable. Donc, les négociations ou les discussions se sont arrêtées là. Moi, je crois qu'un seul taux, comme le proposait Paradis ou récemment le Finance, ça ne fonctionnera pas. Il y a trop de disparités entre la valeur des terres d'une région à l'autre. Alors, je pense qu'on va devoir maintenir plus d'un taux de crédit dans le programme. Et surtout, qu'en maintenant plus d'un taux de crédit, bien, on va être plus précis, puis on va mieux compenser tous les producteurs. Donc, sans que ça soit très compliqué à administrer, on va avoir un programme qui répond mieux. Mais il n'y a pas eu d'autres discussions. Puis, semble-t-il que le MAPAC veut continuer ou dans les prochaines semaines, soit très qu'on discute. Nous, on est prêts. Mais ça va prendre aussi la volonté des municipalités de comprendre que dans le contexte actuel, s'ils veulent maintenir l'agriculture sur leur territoire, surtout s'ils veulent maintenir des fermes familiales sur le territoire, bien, les municipalités vont devoir comprendre qu'il y a une limite à pouvoir taxer les terres agricoles.
Et là, on est entré en période électorale. Même si la campagne n'est pas officiellement déclenchée, c'est tout comme. Cette question-là, est-ce que dans votre esprit, ça veut dire que ça ne peut pas se régler justement avant l'élection et que ce sera le prochain gouvernement, quel qu'il soit, qui devra encore une fois reprendre ce dossier-là?
En fait, le gouvernement est encore fonctionnel. Là. Il y a encore un conseil des ministres, il y a encore un gouvernement. Et le gouvernement pourrait décider maintenant que le 1er janvier 2019, la loi va devoir être changée après le 1er janvier, naturellement, ou après le 1er octobre. Là. Le gouvernement pourrait décider maintenant que le taux de crédit qui s'appliquera le 1er janvier 2019 sera X ou Y et d'annoncer maintenant qu'il y aura la levée du plafond sur le programme de crédit de taxe foncière agricole. Ça, le gouvernement peut l'annoncer maintenant. Ça devient une décision gouvernementale que les autres partis devraient ne pas respecter. Et là, à ce moment-là, ce seront eux qui en subiront les conséquences. Là. Et les autres partis devront nous dire s'ils vont appliquer ou non la décision que le gouvernement vient de prendre. Là. Mais moi, le gouvernement est toujours fonctionnel. Il y a toujours un ministre de l'Agriculture. Donc, le gouvernement pourrait annoncer maintenant les mesures qu'il entend prendre pour le 1er janvier 2019.
On reviendra sur la campagne électorale dans quelques instants. Peut-être un mot, tout d'abord, sur la politique bioalimentaire. Une politique présentée ce printemps par le ministre Laurent Lessard, également par le premier ministre et d'autres ministres sectoriels. Une politique qui, finalement, par le projet de loi qui assurait sa mise en vigueur, sa mise en application, projet de loi qui n'a pas été voté, finalement, avant l'ajournement de la session parlementaire. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on repartira à zéro en matière de politique agroalimentaire ou bioalimentaire au Québec?
Bien, j'espère que non, parce que lorsqu'on a commencé cette consultation-là avec le MAPAC, on mentionnait que dans les 7-8 dernières années, là, c'était la 6e ou 7e consultation à laquelle on assistait. Là, il y a eu une consultation très large qui a duré plus d'un an. On a élaboré des pistes de croissance, tant à l'exportation que sur les marchés intérieurs. Je pense qu'on a une politique quand même intéressante, auxquels beaucoup de partenaires du milieu agricole ont participé. Les consommateurs ont été interpellés aussi. Je verrais mal qu'on reprenne à zéro après l'exercice qu'on vient de faire. Malheureusement, la loi n'a pas été adoptée. Et ça va faire, pour nous, ce sera un des points qu'on va soulever lors de la prochaine campagne électorale. Qu'entendent faire chacun des partis en liste pour la prochaine élection de cette future politique bioalimentaire-là, de cette politique bioalimentaire-là? Elle est perfectible, cette politique-là. Il y a des éléments qu'on peut améliorer. Il y a des éléments pour nous au niveau de la gestion des risques en agriculture qui restent à améliorer. On demandait, nous, d'avoir un meilleur soutien pour le développement de l'agriculture en région, les régions périphériques surtout. Je pense au Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue. Ça n'a pas été livré. Donc, on va revenir, nous, pendant la campagne, sur certains éléments qu'on verrait être ajoutés à cette politique-là pour l'améliorer. Mais la base de la politique, pour nous, demeure intéressante et on espère qu'on va pouvoir la conserver.
Justement, parlons de la campagne électorale. Donc, vous allez demander des précisions sur les intentions face à la politique bioalimentaire, face aux documents présentés par le gouvernement actuel, mais vous allez aussi demander beaucoup d'autres choses là, de la part des partis politiques, de façon à ce que vous puissiez éclairer les membres agriculteurs sur, justement, les enjeux au cours de cette campagne électorale.
On ne va pas dévoiler tout de suite notre programmation. Parce qu'on a tout un plan d'action prévu en vue de la future campagne électorale. On espère recevoir les chefs de chacun des partis en début de campagne, les 5 et 6 septembre. Ils ont déjà reçu une invitation pour rencontrer le Conseil général de l'UPA. Et on a des dossiers comme les taxes, naturellement, on en a parlé un peu, la sécurité du revenu, la gestion des risques en agriculture, le développement régional, le territoire, pour nous, c'est important. Alors, on va revenir sur chacun de ces points-là. Aussi, la relève agricole et l'accès aux terres pour les jeunes. Parce que le dossier de l'accaparement des terres n'est pas réglé. Les dernières statistiques nous démontrent que l'acquisition par les fonds d'investissement progresse. Pas seulement que Pangea, il y a d'autres investisseurs qui achètent des terres et ça, c'est pas ralenti. Donc, on aura beaucoup de points à soulever pendant la campagne, puis on mènera à notre façon une campagne de sensibilisation en faveur de l'agriculture pendant la campagne électorale. On vise deux objectifs, sensibiliser l'ensemble de la population à l'enjeu de l'agriculture et sensibiliser les partis politiques à s'assurer que l'agriculture du Québec sera performante et que les fermes familiales auront un avenir au Québec.
Donc, M. Groslot, on parlait de vacances un peu de façon légère en début d'entrevue, mais effectivement, les vacances, s'il y a possibilité pour les agriculteurs de prendre quelques jours de congé, ben ça risque d'être beaucoup accaparé par des choses comme vous venez d'expliquer.
Oui, ben moi, je souhaite, parce que je vais révéler que chez nous, à la ferme, mon frère Denis et moi, on s'est toujours assuré de prendre quelques jours de vacances pendant l'été, puis c'est une des raisons pourquoi on avait décidé de s'associer au départ. C'est de pouvoir avoir une vie de famille puis être capable de s'offrir quelques jours de vacances et des fins de semaine occasionnellement, ce qu'on a toujours fait, et je pense que c'est important. Puis je souhaite que tous les producteurs agricoles au Québec puissent en faire autant, prendre quelques jours avec leurs enfants, leur famille, profiter des routes du Québec pour faire quelques sorties. Mais l'été sera quand même assez occupé parce que je sais que les partis politiques ont déjà commencé leur tournée, les nouveaux candidats également. Alors, ce sera un été où on va parler beaucoup d'agriculture et où il va se faire un peu de politique, je pense.
Merci à Groslot, merci beaucoup, puis bon été.
Merci beaucoup, Lionel.
Ici Lionel Levac. Maintenant que les Mexicains ont élu un nouveau président de gauche, en la personne d'Andrés Manuel López Obrador, la dynamique pourrait changer à la reprise des pourparlers Canada-États-Unis-Mexique. Certains disent que le nouveau président mexicain pourrait se montrer assez exigeant. Pour les agriculteurs d'ici, cependant, ce qui va compter le plus sera le geste ou le propos qui viendra du premier ministre canadien, Justin Trudeau, pour effacer ceux qu'il tenait ce printemps à un réseau américain et laissant entendre que des concessions étaient possibles sur la gestion de l'offre. Pour le reste, l'UPA est bien prête en vue des élections de l'automne au Québec et profitera de l'occasion pour mener une vaste campagne de sensibilisation à l'agriculture. Au revoir.